l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres, un incendie a consumé une quarantaine de maisons sur avenue Mama Yemo, axe Bizimana, au quartier Panzi dans la nuit de dimanche à ce lundi. Le chef adjoint du quartier Panzi demande à la population de demeurer vigilante face aux cas répétitifs d'incendie. La journée internationale de la jeunesse sera célébrée ce mercredi 12 août. En marge de cette commémoration, le conseil urbain de la jeunesse de Bukavu juge inappropriée la campagne « Oui, je le veux » lancée au niveau national par la ministre de la jeunesse en vue d'un éventuel changement de la constitution. La priorité selon le président du conseil urbain de la jeunesse est la sécurité, l'emploi et l'éducation des jeunes. Finalement, la campagne des vaccinations contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite a été lancée au sud Kivu ce lundi. Les parents sont appelés à rendre disponibles leurs enfants pour cette vaccination qui ira jusqu'au 15 août prochain. Voilà donc tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
À présent, les détails. Plus de 47 maisons parties en fumée, d'autres détruites et d'importantes pertes matérielles. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré sur avenue Mama Yemo, axe Bizimana, au quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda, dans la nuit de dimanche à lundi 10 août 2026, aux environs 10h du matin. Cette précision est du chef adjoint du quartier Panzi, Christophe Itongwa, dans un entretien avec Radio Mandeléo. Il estime que parmi les causes de cet incendie figure la mauvaise installation du courant électrique et la promiscuité des maisons, du reste construites en planches. Surprise en plein milieu de la nuit, les victimes n'ont pas eu la possibilité de sauver leurs biens, indique Christophe Itongwa. Ce cadre de base appelle à une intervention en leur faveur et demande à la population de demeurer vigilante face aux cas répétitifs d'incendie dans cette partie de la ville de Bukavu. On l'écoute.
Présentement, les victimes sont dans la rue en attente d'assistance des organisations humanitaires ou des personnes de bonne volonté. Et vu cette unité cas descendu dans les quartiers Panzi et nous demandons à notre population d'être prudente et que la vigilance nous caractérise surtout en cette période où nous continuons à enregistrer plusieurs cas descendus dans les quartiers Panzi.
Christophe Itongwa au micro de Radio Mandeléo. Et moins de 72 heures après la nomination de l'AFSAM 23, des membres des comités de gestion au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire à Bukavu au sud Kivu et à Goma au nord Kivu, le gouvernement congolais estime que ces décisions sont nulles et des nuls effets. Dans un communiqué officiel rendu public ce lundi 10 août, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation indique avoir pris connaissance des nominations opérées par l'AFSAM 23 au sein des comités de gestion de plusieurs établissements publics de ces deux villes. Dans ce document, le mouvement AFSAM 23 justifie sa décision par la nécessité de doter les établissements concernés de nouveaux animateurs et de combler les postes vacants au sein de plusieurs comités de gestion afin d'en assurer le fonctionnement dans les zones qu'ils présentent comme des territoires libérés. À Bukavu, six institutions figurent sur la liste, à savoir l'Institut supérieur de commerce ISC Bukavu, l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu, l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu, l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Bukavu, ainsi que l'Université officielle de Bukavu UUB. Pour le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, les nominations opérées par l'AFSAM 23 sont nulles et sans effet juridique ou administratif. Les comités de gestion régulièrement investis restent, selon le gouvernement, en fonction et conservent l'ensemble de leurs prérogatives. Entre-temps, dans une circulaire du gouverneur de province du Sud Kivu sous l'AFSAM 23, il a interdit toutes les opérations financières avant la procédure des remises et reprises, qui devra être contradictoire et transparente. Ainsi, il a interdit les mouvements dans les patrimoines des institutions concernées sous peine des sanctions. Et les autorités devraient se concentrer concentrer en priorité sur la sécurité, l'emploi et l'éducation en faveur des jeunes, plutôt que sur les différentes campagnes en faveur du changement de la constitution à cette période. C'est ce qu'estime Junior Kamouele, président du Conseil urbain de la jeunesse de Bukavu, en marge de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Réagissant à la récente sortie médiatique de la ministre nationale de la jeunesse, au cours de laquelle elle a annoncé la campagne dénommée « Oui, je le veux » pour un éventuel changement de la constitution, Junior Kamouele rappelle que cela est inopportun dans un contexte marqué par la guerre et les difficultés socio-économiques. Il estime que les efforts devraient plutôt être orientés vers les besoins immédiats de la population, notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que la préparation des jeunes à faire face aux défis futurs. Concernant la constitution, les raisons évoquées du projet de changement doivent être clairement expliquées à la population en précisant par exemple lesquelles des dispositions constitutionnelles constituent actuellement un obstacle à la gouvernance du pays. À l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse, il invite ainsi les autorités à apporter d'abord des réponses concrètes aux difficultés auxquelles font face les jeunes en cette période. Le débat sur la constitution pourrait, selon lui, intervenir après. Junior Kamouele au micro de Omer Moudekereza.
J'estime que les autorités devraient plus se concentrer sur les questions liées au développement intégral de la jeunesse, à savoir l'éducation, l'emploi, la santé, la sécurité et qu'en sais-je encore. Le monde, il est en train de basculer vers une nouvelle ère caractérisée par la question de l'intelligence artificielle, par la question du transhumanisme, par les questions de sécurité transfrontalière et le Congo, actuellement, il ne reste pas en marge. Nous sommes en train de voir ce qui se passe en Ituri avec les ADF associés au mouvement Al-Qaïda. Donc nous ne pouvons pas dire qu'actuellement la question de la constitution serait une priorité. Par contre, nous estimons qu'il faudrait qu'on se concentre beaucoup plus sur les questions liées à l'emploi des jeunes, à l'éducation des jeunes et à la préparation de ces jeunes pour le Congo de 2030-2035.
Le président du Conseil urbain de la jeunesse au micro de Radio Maendeleo y contribue à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la participation citoyenne à travers un dialogue multipartite de plaidoyer sur les enjeux de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. C'est parmi les objectifs d'un atelier d'échange sur le dialogue provincial de plaidoyer pour la paix, la cohésion sociale et la participation citoyenne dans l'est de la RDC, organisé ce lundi 11 août 2026 par la commission diocésaine Justice et Paix. Les précisions avec Hélène Boudjeriri.
À en croire Gisèle Moulengezi, chargée des programmes au sein de la CDJP Bukavu, cet atelier vise à outiller les participants sur comment identifier les différents problèmes au sein de la communauté avant de mener les plaidoyers avec une cible précise. L'idée, c'est de doter les participants des connaissances nécessaires afin qu'ils aient la capacité d'orienter leur plaidoyer, ainsi obtenir une réponse favorable. Gisèle Moulengezi en parle.
L'objectif global était de réfléchir sur le contexte actuel et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons donner des réflexions sur le point de plaidoyer par rapport au vécu de la population, analyser l'évolution des contextes sécuritaires et ses impacts sur la communauté et aussi définir les cibles et les canaux de plaidoyer.
Les participants parmi lesquels les représentants des autorités locales, les organisations de la société civile, les organisations des femmes, celles des jeunes, ainsi que les leaders communautaires et religieuses remercient la CDJP pour ses assises. Ils ont émis les vœux de voir les autorités rester à l'écoute de la population en cas de plaidoyer pour que la paix et la cohésion sociale demeurent entre gouvernants et gouvernés. On écoute à ce sujet Solange Loachiga qui en parle dans cet élément.
Les autorités devraient afficher l'attitude de compréhension, l'attitude de redevabilité, de réceptivité. C'est-à-dire que quand les citoyens vont solliciter les audiences, il serait important que les autorités écoutent, dialoguent et rendent compte par rapport au problème qui fait objet du plaidoyer et surtout répondent positivement aux demandes de la population.
Signalons que cet atelier, qui se déroule dans le cadre du dialogue provincial des plaidoyers pour la paix, la cohésion sociale et la participation citoyenne dans l'est de la RDC, se tient à la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, exécuté par la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP Bukavu, avec l'appui financier des CAFOD à travers Justice et paix Congo.
Et parlons à présent d'une autre journée internationale. Le comité de médiation et de défense des droits humains, basé à Kamanyola en territoire de Walungu, plaide pour la mise en œuvre effective de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette organisation lance ce message en marge de la journée internationale des peuples autochtones célébrée le dimanche 9 août 2026. Détail avec notre correspondant à Kamanyola, Wendo Joé.
Dans son bulletin hebdomadaire publié ce dimanche 9 août, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, cette structure de défense et promotion des droits humains basée à Kamanyola constate avec regret les défis socio-humanitaires et économiques auxquels sont confrontés les peuples autochtones pygmées vivant à Kamanyola en territoire de Walungu et dans la plaine de la Rosésie, surtout à cette période de crise. Ils vivent sans accès à la forêt et les sols argileux. Suite à l'insécurité, pourtant, ils vivent essentiellement de la poterie. La vie devient de plus en plus compliquée pour eux. Contactée à cette occasion, Madame Anosiata Agathe, représentante des peuples autochtones pygmées vivant à Kamanyola, déplore la circonstance de vie à laquelle sont confrontés. Les problèmes auxquels nous faisons face en ces jours. Auparavant, on fabriquait des cruches, des casseroles en terre, on coupait la paille, des bois et même des produits traditionnels en territoire d'Ouvira. Et ça nous aidait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus aller dans la brousse. Nous restons bloqués ici. Nous sommes confrontés à la crise. On pouvait manquer, mais nos produits nous secondaient. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment nos enfants vont étudier alors que nous n'avons rien. C'est difficile de trouver des uniformes, des fournitures scolaires. C'est pour ça que les enfants pygmées vont rater cette année. Ces ONG qui interviennent, qu'elles nous aident aussi, les pygmées de Kamanyola en uniforme. S'appuyant à la loi portant protection des peuples autochtones pygmées en vigueur en RDC, signée le 20 juillet 2022 par les chefs de l'État, notre source veut voir les gouvernements et ses partenaires développer les mécanismes axés sur la promotion de cette catégorie sociale. De Kamanyola, Wendo Joé pour la Radio Maindélé.
Et les habitants du groupement de Bushumba dans le territoire de Kabare sont appelés à soutenir le projet d'électrification amorcé dans cette entité il y a de cela plusieurs années. L'appel est du chef de groupement de Bushumba, Chimusa Muresa Benjamin, dans un entretien avec Radio Mandeléo lundi 10 août 2026. Les précisions avec Alain Kabika.
Ces derniers soulignent que depuis le lancement de ces projets, des habitants du milieu se sont activés à contribuer chacun selon ses moyens pour son avancement. À ce jour, ajoute-t-il, les travaux sont à l'étape de l'installation des poteaux pouvant accueillir les fils électriques. Tout en saluant l'appui des autorités en place pour la réussite de cette initiative, il rappelle que l'objectif est d'électrifier les groupements des Bushumba et booster les développements à travers plusieurs secteurs. Pour y arriver, le chef du groupement des Bushumba insiste sur la mobilisation des ressortissants de son entité vivant ailleurs pour l'aboutissement de ses projets qui nécessitent un budget de $400,000 américains. Le chef du groupement des Bushumba, Chimusa Muresa Benjamin, en parle.
On avec le 21e siècle, on voit que chaque groupement, chaque territoire peut se produire un courant électrique. Nous avons une population estimée à 70 000 habitants par kilomètre carré. La population, elle est déjà active aux contributions avec l'appui de la population, de l'administrateur, de nos ressortissants. Ce projet peut réussir à 100%. C'est un projet qui va encore désenclaver Bushumba, nos étudiants, nos élèves, les services comme les moulins, les secrétariats publics. J'avais l'envie d'appeler nos ressortissants, en particulier du groupement de Bushumba, de se mobiliser comme un seul homme, de venir en aide, de venir à tous les moyens, d'appuyer ces projets. Peut-être nous pouvons voir demain, est-ce qu'une ampoule peut être disponible, éclairée devant la population de Bushumba. J'appelle à tout le monde de se mobiliser.
Signalons que ces projets d'électrification du groupement de Bushumba consistent à capter les courants électriques à partir d'un barrage hydroélectrique situé dans le village Muganzo, au profit de plus de 70 000 habitants, que compte cette entité du territoire des Kabare, conclut Chimusa Muresa Benjamin.
Et dans le reste de l'actualité, la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite a été lancée au sud Kivu lundi 10 août 2026. 5 000 enfants sont attendus pour cette campagne. Ayant procédé au lancement officiel de la campagne, le vice-gouverneur sous la FSAM 23 en charge des questions administratives et politiques, Tuni Abouengue Dux, a appelé les des parents à rendre les enfants disponibles pour cette fin. Pour lui, la persistance de cette maladie vient du fait que certains parents ne respectent pas le calendrier vaccinal. À cet effet, il appelle les parents non seulement d'amener les enfants au centre prévu pour la vaccination, mais aussi éviter les rumeurs qui les poussent à ne pas vacciner leurs enfants. Dunia Bouenge Doux.
Notre province, depuis quelques années, fait face aux multiples épidémies, notamment des rougeoles, rubéoles et de la polio, avec des conséquences fâcheuses que nous connaissons et nous nous attelons à apporter notre contribution à notre service technique qui s'occupe de la santé en présidant aujourd'hui ces lancements. Les parents devront savoir en grande partie que c'est à la suite du non-respect des calendriers de la vaccination et routine chez les enfants, faisant qu'un grand nombre d'enfants ratent la vaccination. Ce qui explique les épidémies à répétition des rougeoles, des polions et j'en passe. Et aujourd'hui, je vous parle avec insistance pour vous encourager à pousser encore plus fort qu'avant la mobilisation des parents, afin d'espérer à l'élimination, voire l'éradication de toutes ces maladies évitables par la vaccination d'ici l'année 2030.
Le vice-gouverneur rassure néanmoins de l'arrivée des vaccins dans tous les territoires du Sud Kivu, précisant que ces vaccins concernent les enfants âgés de 0 à 14 ans selon le besoin. Et l'Union nationale de la presse du Congo UNPC section du Sud Kivu a remis ce lundi 10 août 2026 un kit de lutte contre la maladie à virus Ebola à Radio Mandeleo. Remis dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation de la presse autour de la prévention de cette maladie, cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet mis en œuvre avec l'appui de la coopération suisse. Cette initiative vise à renforcer l'implication des médias dans la diffusion des informations fiables et des messages de prévention auprès de la population. Pour Sylvie Nabintou, membre de l'UNPC Sud Kivu, les médias constituent une cible importante de cette campagne en raison de leur rôle dans la sensibilisation communautaire. Elle estime que les professionnels des médias doivent eux-mêmes être suffisamment informés et protégés afin de pouvoir transmettre des messages corrects, lutter contre les rumeurs et contribuer à renforcer la confiance de la population envers les dispositifs de prévention et de prise en charge. On l'écoute dans cet extrait.
Connaissant le rôle des médias, l'UNPC, avec l'appui de la coopération suisse, a trouvé important de remettre les kits quoi, de prévention contre cette maladie, parce que les journalistes doivent prêcher par l'exemple. Et aujourd'hui, on a remis à Radio Maindeleo, parce que nous savons en tout cas que Radio Maindeleo étant vraiment une grande radio dans la ville de Bukavu, et va continuer sur la même lancée, donc la sensibilisation, la mobilisation, et même l'éveil des consciences pour que la population continue à rester sur la garde, continue également à être informé pour prévenir cette maladie.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maindeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, l'armée patriotique rwandaise APR FC du Rwanda refuse de se déplacer à Kinshasa pour affronter les Aigles du Congo au tour préliminaire de la Ligue de Champions de la CAF. Le club rwandais invoque des préoccupations liées à l'épidémie d'Ebola et à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Plus de 72 heures après le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF, l'entraîneur de l'APR FC, le technicien marocain Abderrahim Taleb, l'a annoncé dimanche au cours d'une interview accordée aux médias sur place. L'APR FC ne souhaite pas non plus recevoir les Aigles du Congo à Kigali. L'APR FC invoque des préoccupations sanitaires et sécuritaires. De leur côté, les Aigles du Congo poursuivent leur préparation en Tanzanie où ils effectuent un stage. Le club congolais s'est imposé dimanche face aux Young Africans sur le score de 2-1 lors d'un match amical disputé au stade Uhuru. La double confrontation contre l'APR est prévue en septembre prochain. Le match aller est programmé à Kinshasa durant le week-end du 4 au 7 septembre 2026, tandis que le retour doit se jouer au Rwanda le week-end suivant du 11 au 13 septembre 2026.
La revue de presse. Radio Maindeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux parissant à Bukavu et dans la capitale.
La célébration de la Journée internationale des peuples autochtones à Métis-Centre en territoire de Kabaré et la multiplicité des barrières sur la route nationale numéro 5, tronçon Uvira Baraka, font partie des sujets commentés par la presse lundi 10 août 2026. La revue de presse avec Myriam Mufano.
La débutante s'est trouvée de presse par cabaretactu.info qui écrit Kabiti, dans le territoire des cabarets, la journée internationale des peuples autochtones pygmées, célébrée les 9 août, a été marquée par des échanges sur la santé maternelle, la valorisation des savoirs traditionnels et l'accès aux soins modernes. Organisée par le Parc national des Kaouzi-Biega et ses partenaires, la rencontre a réuni des représentants des peuples autochtones pygmées, des cabarets et des Kalehe, des acteurs de la conservation et du développement des communautés. Le participant insister sur la nécessité de rapprocher les pratiques traditionnelles de la médecine moderne. Le docteur Chiringui Aline, médecin généraliste à l'hôpital de Fomila Katana, a reconnu l'importance de la médecine traditionnelle tout en soulignant ses limites, notamment en matière des dosages et des contrôles de produits utilisés. Elle a appelé les femmes enceintes autochtones à effectuer régulièrement des consultations prénatales afin de bénéficier d'un suivi médical, de médicaments et de vaccins nécessaires. De leur côté, les femmes autochtones ont plaidé pour un partage d'expériences avec les professionnels de santé afin de préserver leurs connaissances tout en intégrant les avantages de la médecine moderne. Au-delà de la santé, les échanges ont également porté sur l'autonomisation des peuples autochtones et la conservation de l'environnement. Le chef de site du Parc national des Kaouzi-Biega, Arthur Kalonji, a encouragé notamment les femmes à développer les activités susceptibles de renforcer leur autonomie financière dans un contexte de baisse de financement du partenaire. De son côté, stnews.info écrit « Les trajets ouverts à Baraka sur la route nationale numéro 5 est devenu difficile pour le voyageur en raison de la multiplication de barrières et de la dégradation de la route. Les mouvements citoyens Machozi Araïa dénombre 26 barrières sur les 86 km séparant les deux villes, soit environ une barrière tous les 3,4 km. Selon ces structures, la plupart exigent le paiement des 1000 francs congolais et seraient érigés par des hommes en armes. La dégradation de la route nationale numéro 5 a également considérablement rallongé les temps de parcours, passant de 3 ou 4 heures à environ 7 ou 8 heures. Face à ces difficultés, certains voyageurs recourent au transport lacustre sur les lacs Tanganyika, mais cette alternative reste limitée. Aucun bateau n'assure régulièrement la liaison au Vera Baraka. Un embarquement d'une capacité théorique des 40 passagers serait parfois contraint d'en transporter entre 60 et 100, selon le mouvement citoyen Machozi Araïa. Cette structure citoyenne appelle les autorités provinciales nationale à démanteler les barrières jugées illégales, réhabiliter la route nationale numéro 5 et mettre en place une liaison lacustre régulière et sécurisée entre Ouvira et Baraka. Bouclant cette revue de presse par la PNLRDC.cd qui indique qu'en République démocratique du Congo, la synergie des syndicats des enseignants appelle à une non-reprise des cours dans les écoles publiques à partir du 1er septembre 2026, date prévue pour la rentrée scolaire 2026-2027. Dans un communiqué rendu public, plusieurs organisations syndicales, dont les Sinecat, les CCT, la FA, la COFEVID, les CIPERCO et les CIADEC, demandent aux enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs et agents administratifs de suivre ces mots d'ordre jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Au cœur de ces revendications figurent l'amélioration des salaires, la régularisation et la mécanisation des enseignants nouvelle unité NU et non payés NP, ainsi que l'ouverture des discussions sur une nouvelle politique salariale. Le syndicat rappelle notamment la promesse d'un salaire mensuel de $500 américains et réclame également un système de retrait digne, la valorisation du rôle des inspecteurs et un financement suffisant de la gratuité de l'enseignement primaire. Les organisations syndicales annonce par ailleurs une marche dès la rentrée scolaire pour faire entendre leurs revendications et réclamer notamment la démission du ministre de l'Éducation nationale. Si le mouvement est largement suivi, le démarrage des cours dans les écoles publiques pourrait être perturbé. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du gouvernement n'avait encore été rendue publique, alors que les syndicats appellent à l'ouverture d'un dialogue pour trouver une issue à la situation, conclut la PNL RDC.
Un communiqué avant la fin de ce radio-journal, dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion de l'éducation et de l'autonomisation de la femme, le Centre de la mobilité humaine porte à la connaissance de toutes les femmes entrepreneurs, membres du réseau des femmes entrepreneurs des cabarets, qu'une opération d'enregistrement préalable à la réception des fournitures scolaires prévue pour l'année scolaire 2026-2027 sera organisée à compter de ce mardi 11 août 2026. Les membres concernés sont invités à se présenter, à partir de 14h ce mardi à l'endroit retenu lors de la réunion de la 5e édition afin de procéder à leur enregistrement et de faire connaître leurs besoins en fourniture scolaire. Les modalités relatives à cette opération ainsi que les orientations complémentaires nécessaires à son bon déroulement seront communiquées au cours de la même rencontre. Pour tout renseignement complémentaire, les membres sont priés de s'adresser au secrétariat du réseau des femmes entrepreneurs de Cabaret ou contacter la direction au numéro +243 98 79 53 953. Ainsi fait à Katana le 10 juillet 2026. Madame Iselte Luango, chargée des communications, signe le présent communiqué.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Par ici pour enfants, ce radio journal, Emile Mouindo a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Maendeleo. Au revoir.